de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joko Widodo invite la PNG à apprendre la langue doctrine minière en aval en Indonésie. Menkumham exprime le soutien de l'Indonésie en matière de propriété intellectuelle. Le Parlement Moroccan apprend le processus de transition de paix à Aceh. Java Occidental s'engage à étendre la province sœur avec Guangxi Zhuang. Le ministre russe des Affaires étrangères participera à la 56e AMM à Jakarta. Le président biélorusse prêt à négocier des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Voici le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie était ouverte à l'intérêt de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG, pour étudier les étapes de l'Indonésie de faire en aval de l'industrie des produits minéraux. Pour cette raison, le président Joko Widodo a invité la Papouasie-Nouvelle-Guinée à voir l'industrie en aval en Indonésie, à la fois à Morowali et la baie de Weda pour les produits de nickel, à Gresik pour le cuivre, à Bintan pour les produits de bauxite. C'est ce qu'a révélé le président Joko Widodo après avoir visité une grange à maïs à la résidence de Kerem en Papouasie jeudi 6 juillet.
Sama Indonesia dengan PNG itu mineralnya melimpah. Tapi PNG ingin
l'Indonésie et la PNG ont des minerais abondants. Mais la PNG le veut car vous, les résultats des stocks de nickel en Indonésie apportent une très grosse valeur ajoutée jusqu'à 30 fois, si bien que la PNG veut voir à quoi ressemblent les étapes et l'Indonésie y est ouverte, s'il vous plaît. Le président a expliqué que la coopération entre les deux pays est importante pour le progrès mutuel, en particulier pour les pays du Sud, afin que les relations entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'améliorent à l'avenir. Cette bonne relation se concrétisera dans diverses activités concrètes, telles que la création de zones économiques à la frontière en raison du potentiel de grande valeur commerciale. Le ministre de la Loi et des Droits de l'Homme, Menkumham de l'Indonésie, Yasona Lauli, a transmis le soutien du gouvernement indonésien l'avancement de la propriété intellectuelle à l'échelle nationale et mondiale lors du 64e événement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI à Genève en Suisse jeudi 6 juillet. Yasona a déclaré que l'Indonésie s'était engagée à libérer le potentiel des personnes talentueuses, à respecter les créateurs et les innovateurs et à transmettre les connaissances au profit de la société. d'expliquer que l'Indonésie soutenait le système mondial de la propriété intellectuelle, dont l'une est l'adhésion à l'arrangement de Nice sur la classification internationale des biens et des services afin d'améliorer le système international standard de marque nationale. Il a expliqué que l'Indonésie soutenait le système mondial de la propriété intellectuelle, dont l'une est l'adhésion à l'arrangement de Nice sur la classification internationale des biens et des services afin d'améliorer le système international de standards de marque nationale. Selon lui, la coopération internationale dans le domaine de la propriété intellectuelle façonnera un paysage qui favorise la créativité, embrasse la diversité et encourage la croissance économique. En outre, grâce au leadership de l'Indonésie dans la scène 2023, l'Indonésie amènera la sienne à se concentrer sur la croissance économique mondiale en créant un environnement propice pour la population dans la création et l'innovation. La 640e Assemblée générale de l'OMPI se tiendra du 6 au 4 juillet 2023 et réunira 156 pays membres de l'OMPI. Des représentants du Parlement de la Nation Moro des Philippines ont rendu visite au Conseil représentatif du peuple d'Aceh pour étudier le processus de transition de paix. L'envoyé parlementaire de la Nation Moro, Aida Makalimpas Silongan, à Banda Aceh, a déclaré jeudi que Moro voulait apprendre de l'expérience d'Aceh car Aceh et Moro avaient la même expérience. Aida a déclaré que l'un des principaux aspects de leur étude à Aceh était lié à l'apprentissage de la manière de traiter les combattants comme donneurs d'argent et des terres. Elle a indiqué que dans le processus de transition de paix, il y a actuellement 80 membres du Parlement, dont 41 sont des représentants du Front de libération islamique Moro et 39 des représentants du gouvernement philippin. Pendant ce temps, le président de l'organe législatif de l'Assemblée législative du peuple d'Aceh, Azhar Abdulrahman, a déclaré que le Parlement Moro était en train de rédiger une loi sur le territoire de Mindanao ainsi que plusieurs autres règlements dont certains avaient déjà été finalisés, comme les règlements des élections locales. Le gouverneur de Java Occidental, Ridwan Kamil, a déclaré que sa partie s'était engagée à poursuivre la coopération des provinces sœurs entre la province de Java Occidental et le Guangxi-Zhuang en Chine qui existait depuis longtemps. Ridwan Kamil, après avoir reçu la visite du vice-gouverneur de Guangxi-Zhuang, Kai Lizin, à Gedung Sate, en ville de Bandung, jeudi, Xi Jue expliquait que Java Occidental et Guangxi-Zhuang étaient liés par la coopération des provinces sœurs depuis de nombreuses années. Pendant la pandémie de COVID-19, la relation fraternelle a été testée et a été éprouvée par la province de Guangxi-Zhuang, fournissant des bouteilles d'oxygène pendant la crise aux résidents de Java Occidental. Pendant ce temps, le vice-gouverneur Kai Lizing a invité le gouverneur Ridwan Kamil à se rendre à Guangxi-Zhuang, prévu pour la fin juillet 2023 pour renouveler la coopération avec la province de Java Occidental. Le gouverneur a déclaré que la délégation de Guangxi avait également amené 27 investisseurs pour explorer la coopération avec la province de Java Occidental dans le domaine de l'économie, de l'industrie, de l'éducation et du tourisme. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, participera à la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ou AMM, à Jakarta. L'ambassade de Russie à Jakarta, par le biais d'une annonce sur son compte Twitter officiel, @RussemJakarta, a annoncé jeudi que les 13 et 14 juillet, Sergei Lavrov assistera à la réunion des ministres des Affaires étrangères dans le cadre de la Russie-ASEAN, du sommet de l'Asie de l'Est et le forum régional de l'ASEAN à Jakarta. Ils ont déclaré que la présence de Lavrov visait à promouvoir les intérêts de la Russie dans la région d'Asie et du Pacifique. L'ASEAN a actuellement établi plusieurs partenaires externes, tant avec des pays partenaires du dialogue qu'avec des organisations régionales et internationales. Les partenaires de dialogue de l'ASEAN sont des pays et des organisations régionales ou internationales qui sont des partenaires de coopération de l'ASEAN dans divers domaines. Actuellement, l'ASEAN compte 12 partenaires de dialogue, dont la Russie. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko à Minsk en Biélorussie a déclaré jeudi 6 juillet qu'il était prêt à négocier des pourparlers de paix sur la guerre en Ukraine si la Russie et l'Ukraine le jugent nécessaire. Selon l'agence de presse TASS, le mois dernier, Loukachenko a réussi à arbitrer le conflit en Russie à propos du soulèvement des mercenaires du groupe Wagner. TASS a également rapporté que Loukachenko avait laissé entendre que les pourparlers des pays pour mettre fin au conflit russo-ukrainien pourraient commencer dès l'automne prochain ou en mars prochain. Au même jour et dans la même ville, Loukachenko a également parlé des armes nucléaires russes qui étaient entre autres stationnées en Biélorussie. Il a souligné que les armes nucléaires ne seraient pas utilisées dans le conflit ukrainien dans ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale. À l'envers, des armes nucléaires seront utilisées par la Russie en cas d'agression de l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord ou de l'OTAN. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Fête de l'indépendance des États-Unis et événements de tir de masse ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, une série de fusillades de masse s'est produite simultanément dans un certain nombre de régions des États-Unis, avant et après les vacances de la fête de l'indépendance du 4 juillet 2023. Ces fusillades font de cette année l'une des pires liées à la violence armée aux États-Unis. À la veille de la fête de l'indépendance des États-Unis, des tragédies de tirs de masse se sont produites dans trois endroits distincts: Philadelphie, Baltimore et Fort Worth, au Texas, tuant 10 personnes et en blessant près de 40 autres. À Fort Worth, une fusillade de masse après un festival local marquant le jour de l'indépendance des États-Unis a tué 3 personnes et en a blessé 8 lors d'une fusillade masse à Philadelphie lundi soir 3 juillet. 5 personnes sont mortes et 2 autres ont été blessées. Selon la police de Philadelphie, le suspect est un homme de 40 ans qui avait un fusil semi-automatique AR-15 et une arme de poing de 9 mm. L'homme portait un gilet pare-balles et un masque de ski, alors que les victimes avaient entre 13 et 59 ans. Les cas de fusillade aux États-Unis ne peuvent bien sûr pas être séparés de la loi sur la possession d'armes à feu pour les civils garantis par la Constitution du pays, notamment par le deuxième amendement à la Constitution du 15 décembre 1791, connu sous le nom de Bill of Rights. Cet amendement contient les 10 premiers changements à la Constitution américaine qui affirment les droits fondamentaux de ses citoyens, y compris la possession d'armes à feu. Le président américain Joe Biden a condamné la violence et a renouvelé son appel à des lois plus strictes sur les armes à feu en Amérique. Dans un communiqué publié mardi dernier, il a déclaré que la nation américaine connaissait à nouveau une vague de fusillades tragiques et insensées. Biden a appelé les législateurs républicains à venir à la table des négociations pour apporter des réformes significatives et sensées. Cependant, citant des protections constitutionnelles pour la possession d'armes à feu, les républicains du Congrès bloquent les efforts visant à réformer en profondeur les lois sur la sécurité des armes à feu. Il s'oppose également à la volonté de Biden d'interdire la possession de feu avec des armes d'assaut. Tant que les avantages et les inconvénients de la possession légale d'armes par des civils ne seront pas résolus, la possibilité que des victimes soient abattues continuera de se produire. Selon Gun Violence Archive, en regardant le rythme du premier semestre de cette année, les fusillades de masse au cours de l'année civile 2023 atteindront 679, soit le deuxième plus élevé au cours des 9 dernières années. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire. La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Bon Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 7 juillet est célébré comme la journée des bibliothécaires indonésiens. L'arrière-plan de la commémoration de la journée des bibliothécaires indonésiens était la création de l'Association des bibliothécaires indonésiens le 7 juillet 1973. La création officielle a eu lieu au Congrès des bibliothécaires indonésiens du 7 au 7 juillet 1973 à Ciawi, Bogor. Le directeur de la Bibliothèque nationale de la République d'Indonésie a inauguré la journée des bibliothécaires indonésiens le 7 juillet 1990. La journée des bibliothécaires indonésiens vise à rappeler l'importance de la profession de bibliothécaire en Indonésie, qui a donné le meilleur dans le monde de l'alphabétisation, de la bibliothèque et de l'information. Le 7 juillet 2005, quatre explosions à la bombe suicide en Angleterre. Le 7 juillet 2005 a été un jour sombre pour l'Angleterre. Parce qu'à cette date, il y a eu un attentat suicide. Au moins, il y a eu quatre attentats suicides à la bombe dans trois lignes de métro et un bus à Londres en Angleterre. 56 personnes ont été victimes de cet attentat suicide. On pense que les quatre explosions ont été menées par des terroristes et se sont produites juste au moment où la conférence du G8 s'ouvre en Écosse dans l'après-midi de la veille. L'histoire d'aujourd'hui se termine avec la Journée mondiale du chocolat. La Journée mondiale du chocolat a été célébrée pour la première fois le 7 juillet 2009. La Journée mondiale du chocolat marque la première entrée du chocolat en Europe en 1550. Auparavant, le chocolat transformé à partir de fèves de cacao n'était disponible que dans certaines régions, à savoir l'Amérique centrale. Après avoir été découvert par les colons européens, le chocolat, qui n'était à l'origine connu que le Maya et les Aztèques, a ensuite été introduit dans divers pays européens et devenu le favori de nombreuses personnes. Citant par www.nationaltoday.com, environ 1 milliard de personnes dans le monde mangent du chocolat chaque jour. Outre son goût délicieux, le chocolat a de nombreux avantages pour la santé. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Selamanya.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est Jurita, pour le Big Suvent, voici donc Mon Indonésie et pour le titre... SEP défend la notation de la République d'Indonésie à BBB avec des perspectives stables. Les agences de notation standard NPOR ou SEP a maintenu la note de crédit souverain de la République d'Indonésie à BBB avec une perspective stable le 14 juillet 2023. Cette décision tient compte des perspectives d'une croissance économique solide, d'un bilan solide des politiques et d'un assainissement budgétaire plus rapide que l'objectif initial. D'autre part, la perspective de notation stable reflète les attentes de SEP selon lesquelles l'Indonésie connaîtra une croissance économique solide au cours des deux prochaines années, ce qui soutiendra la performance budgétaire et la stabilisation de la dette. Dans le communiqué de presse de Banque Indonésie mercredi 5 juillet, en réponse à la décision de SEP, le gouverneur de Banque Indonésie, Perry Wardio, a déclaré que l'affirmation de la notation de l'Indonésie démontrait la forte confiance des parties prenantes internationales dans la stabilité macroéconomique et les perspectives économiques à moyen terme de l'Indonésie qui sont maintenues dans un contexte de risques mondiaux croissants. Selon Perry Wardio, l'augmentation du risque mondial découle des tensions géopolitiques et d'un ralentissement économique mondial. Cette confiance internationale est soutenue par une grande crédibilité politique et une forte synergie de dosage des politiques entre le gouvernement et la Banque d'Indonésie. À l'avenir, la Banque d'Indonésie continuera de suivre de près les développements économiques et financiers mondiaux et nationaux, de formuler et d'exécuter les mesures politiques nécessaires pour assurer le maintien de la stabilité macroéconomique et financière et de renforcer la synergie avec le gouvernement pour parvenir à une croissance économique durable. SEP estime que la baisse des pressions inflationnistes associées à l'augmentation des dépenses publiques avant les élections devrait stimuler la consommation privée au second semestre 2023. Ces évolutions pourraient soutenir les performances économiques de l'Indonésie dans un contexte de défis découlant d'un ralentissement de la demande mondiale, ce qui SEP prévoit un taux de croissance de 4,8% pour l'Indonésie en 2023. SEP est également convaincu que les réformes politiques en cours ainsi que des structures démographiques favorables auront un impact positif sur l'économie indonésienne. Cela est encore renforcé par la mise en œuvre de la loi Omnibus révisée sur la création d'emplois par le gouvernement au début de cette année, qui devrait améliorer le climat des affaires, stimulant ainsi l'investissement et la croissance économique potentielle. Du côté extérieur, SEP estime que l'amélioration des performances du secteur extérieur indonésien devrait être en mesure de résister à l'impact du retentissement des prix des matières premières. La mise en œuvre de politiques en aval et l'augmentation de la capacité de transformation dans le secteur minier afin d'augmenter la valeur ajoutée des produits miniers est considérée comme pouvant contribuer à augmenter les revenus d'exportation. SEP a également une vision positive du niveau des réserves d'essence qui augmente à nouveau après avoir baissé au second semestre 2022, soutenu par un excédent de la balance courante et des entrées de capitaux étrangers. Sur le plan budgétaire, SEP mentionne que l'assainissement budgétaire rapide a réduit le déficit de l'Indonésie à moins de 3% du PIB en un an plus tôt que prévu. Le déficit budgétaire qui diminue est censé réduire la dette gouvernementale et les charges d'intérêt. SEP a souligné le rôle important de Banque Indonesia dans le soutien de la capacité du pays à soutenir la croissance économique et à atténuer les chocs économiques ou financiers. SEP estime que la participation de la Banque d'Indonésie à l'achat d'obligations d'État a aidé le gouvernement à gérer ses coûts d'emprunt lorsque l'encours de la dette augmentait. SEP reconnaît également que la Banque d'Indonésie s'est de plus en plus appuyée sur des instruments fondés sur le marché pour mettre en œuvre sa politique monétaire. SEP a précédemment relevé la perspective à stable et confirmé la note de crédit souverain de la République d'Indonésie à BBB, comme annoncé le 27 avril 2022. C'est Juritar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Terima kasih. rindu padamu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine culturel. Intitulé Le Jardin Liwa, avec Maudry. Chers auditeurs, l'Indonésie possède une variété de beaux jardins botaniques. L'un d'eux se trouve sur l'île de Sumatra, à Liwa, pour être précis, la capitale de Lampung occidentale. Le jardin botanique de Liwa fait partie de la zone du parc national de Bukit Barisan Selatan, TNBBS. Le jardin botanique de Liwa a été construit sur une superficie de près de 87 hectares et a été inauguré le 5 décembre 2017. C'est le seul jardin botanique de l'île de Sumatra. Le jardin botanique de Liwa a été construit en tant que centre de conservation de la flore, d'attractions touristiques, d'éducation et de recherche. Le jardin botanique de Liwa est un lieu pour diverses collections de plantes rares. Il y a l'orchidée tigrée, également connue sous le nom d'orchidée géante, ou bien Grammatophyllum speciosum. Cette plante a une taille incroyable, peut atteindre 7,5 mètres. Le jardin botanique de Liwa possède également une plante de bagwood, Exbuklandia populnia, qui est de plus en plus rare et pousse encore naturellement dans la zone du parc national de Bukit Barisan Selatan, en particulier dans la région de Mont Pesagi. En dehors de cela, il existe également des plantes rares endémiques de l'île de Sumatra, telles que le lotus géant ou bien Rafflesia arnoldi, ou mieux connu sous le nom de fleur de Rafflesia, et la fleur de cadavre géant, ou bien Amor Populus Titanum Bec, ou bien Swag Géant. La présence de ces plantes rares est la principale attraction pour les visiteurs du jardin botanique de Liwa. Le jardin botanique de Liwa possède différents types de plantes de pépinières, dont environ 98 types de plantes de pépinières, 96 espèces d'orchidées, 25 types de plantes de la famille des Araceae, 17 types de plantes de la famille des Begoniaceae, 11 types de plantes de la famille des Piperaceae, 8 types de plantes de la famille Nepenthaceae, 2 types de plantes de la famille Aeschynanthus et 1 type de plantes de la famille Oya. Il y a aussi un jardin médicinal planté d'environ 106 types de plantes médicinales ainsi qu'environ 170 types de plantes dans le jardin de collection. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent explorer et apprécier la beauté des différentes collections du jardin botanique de Liwa, vous pouvez vous promener sur le sentier pédestre de plusieurs centaines de mètres de long qui a été aménagé par le gestionnaire. Bon, chers auditeurs, c'est tout le magazine culturel.
Thank you.
ketika kau katakan cinta, seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku merasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang tak bisa menerima cintamu. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang membuat kecewa di hatimu. Lupakanlah saja diriku. Seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku rasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Fête du Krakatau 2023 » avec Maudry. Chers amis, à partir de juillet, le festival Krakatau se tiendra à Bandar Lampung, les 7 et 8 juillet 2023. Ce festival promeut la culture des masques Lampung en organisant des concours de masques et des carnavals. Cette activité collabore également avec la communauté et les intervenants qui deviendront plus tard les principaux soutiens du Krakatau Festival ou KFest. Le service du tourisme et de l'économie créative de Lampung préparera environ 4000 masques pour le festival du Krakatau 2023. Ceci est adapté au thème de l'événement masque Land Nemui Nima, où tous les visiteurs et artistes porteront des masques. Chers amis, environ 20 000 personnes devraient assister au festival du Krakatau 2023. Le chef du bureau du tourisme et de l'économie créative de la province de Lampung, Bobby Irawan, a déclaré que pour se rapprocher et faire de ce festival annuel une propriété communautaire, son parti a directement impliqué la communauté dans la réalisation de ses activités. En dehors de cela, il y aura également la fabrication simultanée de plats traditionnels de Lampung sous la forme de gâteaux Enkak par des MPME locales et la tenue d'un concours de réalisation de vidéos sur le thème du Mont Krakatau en tant qu'icône du plus ancien festival de Lampung. Lors du festival de Krakatau 2023, l'Office du tourisme de l'économie créative de la province de Lampung présentera également des artistes de Lampung, Kangenben. Des masques seront également exposés plus tard. Il y aura une grande procession Tuping. Puis, il y aura une procession de masques héritage retirés du musée Lampung et autres. Bon chargé tard. C'est tout, l'Indonésie en couleur.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu. Selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau, ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Bukan untukmu. Putusin
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson de Sumatra du Sud, intitulée « De Sangke », chantée par Penta Boys. Chers amis, la chanson « De Sangke » nous rappelle qu'un jour, les mensonges de quelqu'un seront également révélés. Cette chanson folklorique du sud de Sumatra enseigne que si nous ne sommes pas honnêtes, nous finirons misérables. La chanson, à l'origine avec un fort rythme malais, a ensuite été réarrangée par un groupe a cappella appelé Penta Boys. Bon, chers auditeurs, voici Penta Boys va chanter une chanson intitulée De Sangke. Bonne écoute.
Gadis tak bertanya janda muda.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!